à tous et bienvenue à tous pour ce nouveau numéro un peu spécial placé sous le signe du jumelage puisque nous recevons aujourd'hui le club web radio du collège Pulitzer. Aujourd'hui, un menu haut en couleur puisque nous parlerons du Japon et du Sénégal. N'oublions pas notre désormais célèbre portrait du mois. D'ailleurs, de qui peut-il s'agir? Allez, un indice. Son prénom commence par un L. Nous inaugurerons une toute nouvelle rubrique consacrée à la culture geek et plus spécialement aux jeux vidéo. Tout de suite, accueillons Marco et Yanis qui nous présenteront un jeu FPS très connu, puis nous enchaînerons sur le jeu League of Legends présenté par Camille. À vous l'antenne, piou piou. As a child, you would wait and watch from far away, but you always knew that you'd be the one to work while they all play.
Bonjour, aujourd'hui c'est Marco et Yanis. On va vous parler de Call of Duty. Le premier Call of Duty a été créé en 2003 par le studio Infinity Ward et édité par Activision Blizzard, filiale de Vivendi. Call of Duty, ou COD en français, l'appel du devoir, est l'une des séries de jeux vidéo de tir à la première personne appelée FPS, les plus populaires au monde depuis 2012. C'est aussi devenu l'un des principaux jeux e-sport sur console. Le dernier Call of Duty date du 25 octobre 2019, Call of Duty Modern Warfare.
Les trois premiers jeux se déroulent durant la Seconde Guerre mondiale. Les séries Black Ops qui se situent aux alentours de la guerre froide et Modern Warfare qui lui se situe dans un contexte de guerre contemporaine mais imaginaire.
Il existe différents modes dans cette série. Le mode zombie est apparu la première fois avec Call of Duty World at War. Le principe de ce mode est de survivre le plus longtemps possible à des vagues de zombies. Le mode zombie se joue en multijoueur solo ou LAN.
Le mode multijoueur est un mode qui permet de jouer en ligne avec d'autres joueurs. Contrairement au mode multijoueur zombie, le multijoueur normal, il n'y a pas de zombies. Les ennemis dans ce mode sont les autres joueurs de l'équipe adverse.
Elle fait partie des séries de jeux vidéo les plus vendus de l'histoire, mais aussi l'un des jeux les plus controversés. Call of Duty est accusé à plusieurs reprises de favoriser le développement de la violence chez certaines personnes.
Si les garçons, Camille, à toi de jouer.
League of Legends est un MOBA, combat d'arène multijoueur en ligne, qui se joue à 5 contre 5. Deux équipes de puissants champions, chacun avec un design unique et différentes manières de les jouer, s'affrontent sans pitié. Il y a aussi différents modes de jeu, des plus nerveux et rapides, aux plus stratégiques et plus lents. Le jeu change constamment, grâce à une équipe de développement toujours active, des changements petits ou majeurs toutes les deux semaines, et un énorme tous les ans. League of Legends est aussi parfait pour s'amuser entre amis, ou pour s'entraîner et jouer sérieusement, car le jeu est aussi rempli de différents aspects stratégiques, comme les dragons, qui donnent des bonus en tout genre permanent à l'équipe qui le tue, ou le baron Nashor, qui donne d'énormes bonus durant 3 minutes. De plus, Riot Games, l'éditeur de League of Legends, pour fêter ses 10 ans, a prévu de sortir plusieurs jeux, et même un anime en 2020. Dans les jeux prévus, on aura un RPG, role-playing game, un FPS, first-person shooter, comme Call of Duty, notamment, pour concurrencer Overwatch, et une sorte de Street Fighter qui lui sortira plus tard. Merci de m'avoir écouté.
Merci les garçons pour cette présentation, et nous enchaînons sur la culture japonaise avec Mohamed Amin, sans oublier Sarah et Altea, sur Monsieur Miyazaki, le fameux dessinateur de Totoro. Et nous terminerons avec Silence.
Des animés qui ont poussé les lecteurs de mangas à regarder les animés. Pour preuve, de plus en plus de personnes regardent les animés, et parmi les plus vus, Dragon Ball Super, One Piece et My Hero Academia. Je vais d'abord vous parler de Dragon Ball Super. Créé par Akira Toriyama en 1984, ce célèbre animé d'aventure raconte la suite de Dragon Ball Z. Cette série d'animés raconte la vie de Goku après le combat contre Buu. La Terre connaît une période de paix jusqu'au réveil du dieu de la destruction. Beerus qui se réveille après un long sommeil. Goku et ses amis décident de l'affronter, puis la période incroyable, magique, le tournoi du pouvoir. Freezer réapparaît également grâce au Dragon Ball. Nous attendons la suite avec impatience. Le second animé dont je vais vous parler est One Piece, créé par Eiichiro Oda en 1997. Cet animé vous raconte l'histoire de Luffy, rêve de devenir le roi des pirates en trouvant le One Piece, un fabuleux et mystérieux trésor. Après avoir avalé un fruit magique du démon, il est capable de contorsionner son corps élastique dans tous les sens, mais il a perdu la faculté de nager. Au fil d'aventure, Luffy va progressivement composer son équipage et multiplier des amitiés avec les peuples qu'il découvre, tout en affrontant de redoutables ennemis. Ce manga passionnant fait vivre la vie de Luffy, mais c'est vraiment trop long. Vous vous imaginez 94 tomes, c'est énorme. Le dernier animé dont je vais vous parler est My Hero Academia, créé par Koei Horisuki en 2016, qui a connu un très gros succès en très peu de temps. Le personnage principal est un lycéen sans pouvoir, nommé Izuku Midoriya, qui vit dans un monde où 80% de la population possède des super pouvoirs. Du coup, n'importe qui peut devenir un héros ou, s'il le souhaite, un criminel. Sauf notre héros, il souhaite quand même entrer à la Hero Academia pour suivre les traces de son idole All Might, le plus grand de tous les héros, le numéro 1, quoi. Pas de spoil, pour ceux qui connaissent, la saison 4 est sortie, un nouveau obstacle pour Izuku qui devra s'y frotter comme d'habitude. Voilà selon moi les animés à connaître. Sayonara.
Sarah et Althea, à vous de jouer.
Mais qui se cache derrière le fameux réalisateur Hayao Miyazaki? Il est né le 5 janvier 1941 à Tokyo au Japon, puis est dévasté par la Seconde Guerre mondiale. La guerre occupera d'ailleurs une grande place dans ses scénarios. Miyazaki va devenir l'un des plus grands réalisateurs et dessinateurs d'animés.
Pendant sa dernière année au lycée, il découvre le premier film d'animation japonais en couleur, Le Serpent Blanc, de l'animateur Taiji Yabushita, du studio Toei, inspiré d'un conte populaire chinois. Il est un grand animateur d'Osamu Tezuka, autre grand dessinateur, et exerce alors ses talents de dessinateur, d'abord en réalisant des croquis d'avion et en imitant son héros. Mais il trouve qu'il ne sait pas dessiner les personnages. Un jour, il prend conscience qu'il ne fait que copier le style de Tezuka. Honteux, il brûle alors tous ses mangas.
Il débute sa longue carrière au studio Toei Doga en avril 1963 en tant qu'animateur intervalliste. Ça, c'est un vrai scoop. Ce poste consiste à dessiner toutes les images d'animation entre deux étapes clés.
Là-bas, il travaillera sur plusieurs films, comme Le Voyage de Gulliver dans l'espace, ou le vaisseau fantôme volant, ou bien encore sur des séries animées comme l'exemple de Fujimaru, le ninja du vent, ou encore Hustle Punch. Dommage pour nous, ces œuvres ne dépasseront pas les frontières du Japon. J'aurais aimé en voir au moins une.
Il se fait connaître tout d'abord avec son travail sur Gariba no Uchu Ryoko en 1965. Éternel perfectionniste, il ne trouva pas la fin du film à son goût et en proposera une autre qui sera finalement validée et insérée dans le film. Après une formation de 3 longs mois, il est muté pour travailler à la conception du film Les fidèles serviteurs canins, puis à la première série télévisée du studio, Ken l'enfant loup. Il gagne un salaire de 19 500 yens, et ce n'est qu'un début.
L'année 1965 marque aussi le début d'une collaboration avec Takahata, pour un premier projet comme Hustle Punch. Lorsque Takahata commence à travailler sur le film Horus Prince du Soleil, Miyazaki, qui n'a alors que 24 ans, est volontaire pour rejoindre le projet qu'il considère comme sa dernière chance de travailler sur un long métrage et d'arrêter les séries télévisées. Takahata, Miyazaki et Hatsuo Otsuka se font la promesse de terminer ce projet. Quoi qu'il en coûte, le film est une réussite artistique, mais un échec commercial. Il ne sort finalement que le 21 juillet 1968.
En parallèle, Miyazaki travaille avec sa femme sur le Chabuté, et cette fois, il est élevé au rang d'animateur clé. Il assure l'animation de la course-poursuite, qui marque le climat du récit. En 1965, il anime quelques plans du film Le vaisseau fantôme volant, un autre long métrage, toujours en compagnie de sa femme.
Le couple donne naissance à 2 fils, Golo Miyazaki, en janvier 1965, 67, qui devient lui aussi réalisateur, travaillant parfois pour le studio de son père, et un second en avril 1969. Keisuke, artiste ayant fait des gravures et figurines en bois, dont une qui apparaît dans le film Si tu tends l'oreille. La famille déménage à Tokorozawa, dans la préfecture de Saitama, en 1970. Sa femme quitte son travail pour élever les 2 garçons.
Travailleur acharné, Miyazaki travaille sur diverses séries télévisées. Salut la petite sorcière, Caroline. Et Caroline, c'est l'ombre dans le manga Le Peuple du Désert qui voit le jour en septembre 1969 jusqu'en mars 1970 un shonen shoujo shinbun, sous le pseudonyme d'Akitsu Sabulo.
Il participe, en 1970 et en 1971, à l'animation d'un film réalisé par Ikeda Hirochi, Les Joyeux Pirates de l'Île au Trésor, une adaptation du célèbre roman de Stevenson, un personnage original voulu par Miyazaki apparaît. Kachi, une jeune fille rousse habillée de bleu, que l'on revoit par la suite sous différentes formes au fil de son œuvre.
En 1971, Miyazaki quitte la Toei et rejoint Isao Takahata et Yoichi Kotabe au studio Dapro. Il accompagne Yukata Fujiota, le président de Tokyo Movie en Suède, pour essayer d'obtenir les droits d'adaptation de Fifi et Brin d'Acier, pour lequel ils ont déjà créé des storyboards, mais aussi pour parler à l'auteur Astrid Lindgren. Leur démarche échoue et le projet est annulé. Les paysages de Scandinavie seront souvent utilisés dans les films, notamment dans Kiki la petite sorcière, où l'aspect de Kuriko et ses environs sont basés sur Stockholm, en particulier sa vieille ville, le Hjelmlasten, et Visby sur l'île de Gotland.
Ils visitent de nombreux bâtiments à Tokyo, pour un possible nouveau studio. Le trio Miyazaki, Takahata, Kotabe réalise plusieurs épisodes de la série Lupin 3, et le court-métrage Panda Petit Panda en 1973. La suite Panda Petit Panda, le cirque sous la pluie, sort en salle et déjà les traits ronds et joviales du panda présagent le célèbre Totoro.
En juin 1973, le studio quitte APRO pour Zuyo Pictures, une filiale de Nippon Animation. Il travaille pendant 5 ans sur les World Masterpiece Theater, série de la Nippon Animation inspirée des romans européens, et pour la plupart distribuée en France, il y aura l'exemple de Heidi, la petite fille des Alpes, pour lequel Miyazaki a travaillé en tant que concepteur scénique. Il fait un voyage en Suisse pour s'inspirer des paysages. En 1975, Miyazaki se rend également en Italie et en Argentine pour préparer Marco.
En 1978, Miyazaki obtient chez Nippon Animation la possibilité de passer à la réalisation. Il en sort une série de 26 épisodes de 26 minutes chacun, intitulée Conan le fils du futur. Cette série, basée sur le roman pour enfants The Incredible Tide d'Alexander Kay, aborde d'ailleurs des thèmes similaires à ceux de Nausicaa, où Laputa est présente les premières machines volantes créées par Miyazaki.
Parallèlement, un jeune reporter, Toshio Suzuki, récemment transféré à un nouveau mensuel, Animage, appelle Takahata pour lui parler de Horus, prince du soleil, où il comptait écrire un article pour sa rubrique sur les classiques de l'animation. Takahata lui parle pendant une heure, mais refuse de parler de Horus, se concentrant sur ses projets plus récents. Il passe le téléphone à Miyazaki, qui lui parle de Horus, et ne demande que 16 pages dans Animage. Suzuki renonce à citer les deux noms dans le magazine, mais ne les oublie pas. Il devient plus tard producteur en chef de Ghibli et ami inséparable de Miyazaki.
Merci les filles pour ce portrait très complet. Silence vient d'arriver derrière le micro pour nous parler de la légendaire série Fairy Tail.
Bonjour, c'est Silence. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une série qui m'a beaucoup plu, la série Fairy Tail. Inspiré des 63 tomes du manga d'Hiro Mashima, il a été adapté en animé de 328 épisodes. Mais seulement 277 épisodes ont été diffusés en France pour le moment. Cette série raconte l'histoire de plusieurs guildes composé d'hommes et de femmes manipulant la magie dans un royaume appelé Fiore. Chacune d'entre elles est sous la responsabilité du conseil de la magie par l'intermédiaire des maîtres de guilde. Chaque guilde se dispute une place sur le podium des guildes les plus puissantes. Mais une guilde en particulier nous intéresse. Fairy Tail. Cette guilde est aussi bien connue pour ses exploits que pour ses dégâts matériels provoqués par ces derniers à chaque mission qu'ils effectuent. Tout commence par l'histoire de Lucy Orphelia, une jeune magicienne, femme de magie depuis sa plus tendre enfance. C'est pour cela qu'elle est devenue magicienne des clés stellaires, c'est-à-dire qu'elle est capable d'appeler des esprits avec qui elle a conclu un pacte en moyen de clés. Mais Lucy rêve d'intégrer la glorieuse guilde de Fairy Tail, composée de Natsu Draenir, un magicien utilisant le feu, Happy, un chat bleu excède pouvant se faire pousser des ailes, voler et parler, et bien plus encore. Plus tard dans la série, ils seront rejoints par Erzas Karnetna, une mage chevalier, Grey Fullbuster, un mage de glace qui deviendra chasseur de démons de glace. Au fur et à mesure de l'histoire, de nombreux autres membres intégreront cette guilde. Ils vont vivre de très nombreuses aventures, s'opposant à toutes sortes d'ennemis, des guildes clandestines aux guildes officielles en passant par le Conseil de la Magie. Ils vont affronter des voleurs, des démons, des dragons et même à quelques moments des membres de leur propre guilde. Moi, ce qui m'a fait aimer cette série sont trois facteurs. Primo, la direction artistique magnifique. Deuxio, les personnages et leur histoire complexe. Moi, perso, mon personnage préféré est Lucy. Et vous? Et enfin, tertio, l'intrigue.
deux œufs aux petits oignons m'a fait regarder tous les épisodes avec le plaisir de la découverte. Sur ce, je pense que nous pouvons nous stopper ici pour laisser la place au suivant.
Merci, ou plutôt arigato gozaimashita. Voici venu le temps du portrait du mois par Aymeric le Magnifique. Ok, franchement, il doit avoir les cheveux qui enflent lui.
Et jusqu'au bout, et coup par coup, je saurai faire de vrais hommes de vous.
Ici Aymeric, votre animateur, et nous nous retrouvons pour le nouveau portrait du mois. Si tu étais un animal, tu serais...
Un lion.
Si vous étiez une plante...
Une plante carnivore.
Si vous étiez un pays...
La Guadeloupe.
Si vous étiez une ville...
New York.
Si vous étiez un livre...
Un manuel scolaire.
Si vous étiez un film.
La ligne verte.
Si vous étiez une célébrité.
Michelle Obama.
Si vous étiez un super pouvoir.
Arrêtez le temps.
C'est vrai, ce serait plutôt pratique.
Oui.
Si vous étiez une créature légendaire.
Un dragon.
Si vous étiez une chanson.
Banlieusard de Kerry James.
Si vous étiez un style de musique.
Le R&B des années 2000.
Si vous étiez un instrument de musique.
Un djembé.
Si vous étiez un compositeur.
Youssoupha.
Si vous étiez un dessert.
Le royal au chocolat.
Si vous étiez un sport.
La danse.
Si vous étiez une devise.
Je suis le maître de mon destin, le capitaine de mon âme, du film Invictus.
Si vous étiez une émotion.
L'impulsivité.
Merci de nous avoir répondu à quelques questions.
Au revoir.
Et c'était Laurentia, notre assistante pédagogique préférée au collège Paul Bert. Et nous nous retrouverons plus tard pour un autre portrait du mois. Au revoir.
Et pouf, nous sommes de retour sur le plateau pour parler d'une cause un peu plus triste qui nous concerne tous, celle de la maltraitance infantile par Amandine Essemer. Mais ne vous inquiétez pas, nous enchaînerons sur un sujet bien plus joyeux, celui des chats et de leur influence sur le web, présenté par Yaël et Eva.
C'est le nombre d'enfants qui meurent chaque année des maltraitances infligées par leur famille, soit un enfant qui meurt tous les 5 jours en moyenne.
Mais savez-vous qu'il existe plusieurs types de maltraitance et que la pire d'entre elles est peut-être celle qui ne se voit pas?
L'ODAS, Observatoire National de l'Action Sociale Décentralisée, définit l'enfant maltraité comme celui qui est victime de violences physiques, de cruauté mentale, d'abus sexuels et ou de négligences lourdes, ayant des conséquences graves sur son développement physique et psychologique.
Cette définition apporte plusieurs idées. D'abord, elle souligne que la maltraitance peut aller au-delà des coups, hématomes, blessures. Elle peut être psychologique, violence verbale, menace, absence de lien affectif, ou se caractériser par de la négligence, manque d'attention, absence de soins élémentaires, privation de nourriture, de sommeil. Souvent, une maltraitance accompagne l'autre.
La maltraitance morale, c'est comme un abus de pouvoir parental, à répétition qui fait un impact émotionnel sur l'enfant ou le bébé. On peut voir qu'un enfant subit une maltraitance psychique par des menaces répétées, des privations répétées, des punitions répétées, des paroles blessantes, des vexations.
La maltraitance sexuelle, des traces, les paroles de l'enfant, des jeux d'imitation équivoques, des peurs corporelles, l'approche d'un adulte trop près. La maltraitance sexuelle peut aussi se manifester par l'enfant, par des agissements de tout adulte en situation de pouvoir vers l'enfant. Ça peut même des fois finir par des viols.
La maltraitance par carence de soins, qui est une maltraitance physique. Priver l'enfant de douche, de nourriture, d'affection.
Voici ce qu'un enfant pense en général quand il se fait maltraiter. Soit de la culpabilité. L'enfant peut croire qu'il est responsable de la violence qu'il subit. Soit de la honte. L'enfant se sent dévalorisé par rapport à la situation. Soit de la peur. L'enfant va vivre constamment avec la peur à cause de son agresseur.
Ou encore du chagrin. Concrètement, l'enfant peut se désintéresser du monde, de son école, de ses amis, de ses activités, et va réduire les occasions d'échange qui pourrait aider à déceler sa situation.
Et pour finir, la colère et l'impuissance, réaction extrême qui isole encore plus l'enfant de son entourage.
On ne répétera jamais assez que si vous êtes témoin ou victime de maltraitance, appelez le 119. parce que aider n'a pas besoin d'âge et il n'y a pas d'âge non plus pour demander de l'aide.
Salut, c'est Chocolatine et Chaton. Nous allons vous parler d'un sujet qui fait le buzz depuis des années sur le web, les chats. Ça nous est tous arrivé de tomber sur une vidéo de chat, qu'on le veuille ou non, et qu'on la regarde jusqu'au bout alors que ce n'est pas ce que l'on cherche. Comment peut-on expliquer cette fascination pour les vidéos des chats ? Tout d'abord, les chats sont reliés à l'homme depuis très longtemps. Nous allons vous raconter l'histoire des chats. L'histoire des chats remonte à l'Égypte antique. À cette époque-là, déjà, ils étaient vénérés. Et certains étaient même momifiés à leur mort. Bastet, déesse du foyer, était représentée sous la forme d'un chat. Au Moyen-Âge, les chats étaient détestés. En raison de leurs habitudes nocturnes, on les soupçonnait de fréquenter le diable. La rumeur qui prétendait qu'ils étaient les compagnons des sorcières leur valait d'être l'objet de nombreuses cruautés. Puis pendant la période moderne, le chat est réhabilité. Au Japon, par exemple, le chat est un porte-bonheur, des talismans représentant un chat avec la patte derrière l'oreille. On dit même que les chats peuvent prévoir les séismes. Mais pourquoi aimons-nous tant autant les vidéos de chats ? Tout simplement parce qu'ils sont adorables. Ils ronronnent et font des câlins, ils font des trucs rigolos. Comme c'est captivant ! Mais surtout, nous aimons les vidéos de chats parce qu'ils permettent à nos cerveaux de faire un break. Le cerveau humain a besoin de distraction. Le plaisir et le rire provoqués par ces vidéos font du bien au moral. Au moins là, on sait pourquoi les chats font le buzz et ce n'est pas prêt de s'arrêter.
Voilà, il est temps de se remettre à sourire à nouveau pour parler de notre contrée et de celle de l'un de nos chroniqueurs, du nom de Abdoulaye.
Abdoulaye, Amna Foukinyar Ad, Mangi Doudou France, Ramna Boubar Sénégal, Darfouf La Demoune Vacances. C'était Abdoulaye qui nous disait qu'il avait 12 ans, qu'il était né en France et qu'il connaissait bien le Sénégal car il y était déjà parti en vacances.
Bonjour, je m'appelle Abdoulaye et j'aimerais beaucoup vous faire voyager. Le Sénégal, vous connaissez ? Moi je connais ce pays car mes parents y sont nés et je suis allé plusieurs fois voir ma famille à Foundiougne, ville moyenne au sud de Dakar. Justement, parlons de Dakar. Dakar est une ville mouvementée par ses pêcheurs et ses commerçants. Dans cette ville, certains commerçants vendent de très jolis vases colorés en argile qui ont été faits à main nue. Les hôtels, immeubles, gratte-ciel, ports et marchés donnent une très belle vue de haut. Cette ville bouge et prépare de succulents plats, comme le pastel. C'est un apéritif en forme de ravioli mais en plus gros. Il est fourré de thon et de quelques autres épices. Le yassa, une délicieuse sauce avec du poulet posé sur du riz. Et le tchèp boudienne, du riz mélangé avec de la sauce rouge et du poisson. Il prépare également des boissons comme le bissap à base de fleurs d'hibiscus et le bouille à base de fruits de baobab appelé le bain de singe. Dans cette ville, on parle wolof, bambara et poulard. Je laisse la parole à Hugo qui va nous parler de la Normandie.
Salut, je suis Hugo. Je vais vous parler de la Normandie. La Normandie est une région française qui se situe dans le nord-ouest de la France. La Haute et la Basse Normandie sont réunies pour former une seule Normandie. Elle est composée de 4 départements. L'Eure, la Seine-Maritime, le Calvados, la Manche et l'Aube. Rouen et Caen sont les préfectures principales de la Haute et de la Basse Normandie. Cherbourg, Hauteville est la préfecture de la Manche. Alors sont celle de l'Orne et bien évidemment, comme vous en doutez, Évreux est la préfecture de l'Eure. Mais elle vient d'où, notre région ? Le duché de Normandie est créé en 901 grâce à un traité fait par Charles III le Simple, roi de France occidentale. Il abandonne à Roland, chef viking, ce territoire dans les années Roland. Parvient à devenir également le possesseur de la région de Vernon, diocèse de Bayeux et de celui-là du Mans et celui de Sey. Mais la Normandie s'est fait connaître partout dans le monde car elle était un grand lieu de combat, celui du débarquement de Normandie durant la Seconde Guerre mondiale. Le débarquement a commencé dans la nuit du 5 au 6 juin 1944 et a permis de libérer de nombreuses villes, mais ce n'est pas la seule guerre qu'on a connue à cette région. Une guerre perdure toujours dans cette région, celle des Normands et des Bretons sur l'appartenance du Mont-Saint-Michel. Ce qui m'amène à répondre à la question que tout le monde se pose. Que peut-on visiter en Normandie ? J'ai envie de répondre qu'il y a déjà le Mont-Saint-Michel, les villes de Rouen et de Caen, mais il y a aussi des lieux plus méconnus, comme la maison de Claude Monet et son jardin à Giverny. Comme nous avons pu le voir, la Seconde Guerre mondiale a laissé de nombreuses empreintes dans la région, que nous pouvons visiter. Le village de Sainte-Mère-l'Église, la ville libérée par les parachutistes, il y a également le cimetière militaire britannique de la Seconde Guerre mondiale de Banneville-la-Campagne. On a une région remplie de bons produits, comme les fromages, le camembert, le Pont-l'Évêque, le Livaro, mais la Normandie est aussi connue pour les tripes à la mode de Caen et l'agneau de Pré-Salé, qui pâture en baie du Mont-Saint-Michel. Pour le côté sucré, il y a le caramel d'Issigny et la tourguel fait avec du riz de la camelle. Ce dessert du XVIe siècle a été pris par les corsaires normands aux Espagnols.
Merci pour ce voyage autour du monde, mais il est temps de remettre les pieds sur terre pour parler chansons de Océane et Alicia, sans oublier notre cher Daddy Noël et ses légendes. Camille, Clara et Sadiel, à vous.
Pour Zazou, Eva Queen.
Allô, déjà c'est quoi les bails?
Moi je suis au studio, je vais rentrer. Dis-moi, ça se passe à Dubaï? Je suis trop pressé, vous m'avez manqué. Laisse-moi du temps, moi je fais mes lourds. Donne-moi du temps, ouais, je vais te rendre fier. Sur les réseaux, ça fait que jalouse. Personne m'épargne, je surveille mes arrières. Rappelle-toi que ces meufs qui négligeaient, elles savaient pas que la roue allait tourner. Rappelle-toi, elles voulaient me voir.
Salut à toutes et à tous, nous allons vous parler de la fameuse Eva Queen. Du haut de ses 18 ans, Eva comptabilise déjà des millions d'écoutes avec son premier single Mood sorti l'an dernier, ainsi que des centaines de milliers de vues sur ses clips.
Son premier album est un véritable carton lui aussi. Retour sur le parcours de celle qui s'impose comme la reine de la pop urbaine française cette année.
Elle a commencé à chanter à 17 ans, elle sort en octobre 2018 le clip Mood, qui a fait 130 millions de vues aujourd'hui.
Eva Queen a pu compter sur le soutien de sa sœur Jazz et sur ses amis de télé-réalité pour faire de la pub sur sa musique. Queen, c'est un nom et un signe. De son vrai nom, Eva Garnier, Eva Queen est née le 12 mars 2001. Elle a tout juste 18 ans et on peut dire qu'elle est chanteuse montante de la scène urbaine en France.
Elle a choisi ce surnom car c'était un amusement avec sa meilleure amie. Elle a quitté le lycée où elle suivait une filière scientifique.
Elle vient de passer ses épreuves de français avant le bac de l'an prochain.
Mais ça reste encore compliqué car elle a vraiment très peu de temps libre à cause de la musique.
Elle a demandé à redoubler après avoir été opérée du dos. Elle a été alitée pendant 2 mois. Et a changé de cursus malgré une bonne moyenne, car ça lui semblait trop difficile de suivre un programme scientifique à la maison en plus de sa carrière.
Nous laissons place à nos camarades sur les légendes de Noël, mais avant cela,
prenons le temps d'écouter cette magnifique musique de Maria Carré.
Mais quelqu'un dans cette pièce peut-il me dire qui a inventé le concept du Père Noël? Une idée, Clara? Nous commençons tout de suite avec la première légende que Clara va nous raconter.
Il y a une rumeur qui attribue à Coca-Cola l'origine du Père Noël rouge. Nous sommes tous d'accord sur un point. Le Père Noël est chaleureux et généreux avec une longue barbe blanche et son costume rouge. Beaucoup de personnes pensent que c'est Coca-Cola qui a donné sa couleur favorite, le rouge, au Père Noël.
Non, mais Clara, sois un peu plus sérieuse. Tu crois vraiment tout ce qu'on te raconte? Écoute plutôt mon histoire. Le Père Noël n'est pas un produit inventé par Coca-Cola. Ses origines sont bien plus compliquées qu'une simple pub, même si les versions sont très différentes. Son image, d'abord inspirée par Saint Nicolas, a ensuite été dessinée et écrite par plusieurs auteurs et dessinateurs jusqu'à devenir le grand Père Noël que l'on connaît aujourd'hui.
Je suis d'accord avec toi, Camille. Ce que dit Clara est totalement ridicule.
Mon histoire n'est pas ridicule, c'est la vérité. Enfin, si j'en crois Internet.
On est bien d'accord, Camille. Je crois que je connais l'histoire que tu essaies de nous raconter. Pour tout vous dire, le site descend à Saint-Nicolas
et... Eh oui, et c'est à ce moment-là que le Saint-Nicolas parcourt les villes pour récompenser les enfants les plus sages en leur offrant des friandises.
Camille, me coupe pas, j'allais dire.
Il leur donne quoi comme friandises? Des bonbons?
Il leur donne du pain d'épices remplacé par du chocolat en Belgique, en Autriche, des oranges ou des noix.
Eh ben dis donc, ça donne pas très envie tout ça. Et qu'est-ce qui arrive aux enfants pas sages?
Si les enfants n'ont pas été sages durant l'année, ils reçoivent la visite du père Fautard qui accompagne le Saint-Nicolas, alias le Père Noël, dans les rues de la ville pour distribuer des friandises aux enfants les plus sages. Pour ceux qui n'ont pas été sages, ils distribuent des morceaux de charbon ou des coups de bâton.
Heureusement, j'ai été sage toute l'année, moi.
Ouais, moi aussi, n'est-ce pas, Camille?
La chronique de Noël touche à sa fin. Le moment est venu de vous dire au revoir.
Merci les filles pour tout, en espérant que nos auditeurs soient aussi sages que vous. N'est-ce pas, Camille? Enfin, il n'y a pas que toi. Ne t'inquiète pas, hein, Sadiel. Bref, passons à autre chose, et c'est au tour de Léna qui va nous parler d'un gros mange. Pardon, il n'est pas gros. Bon, voici un sujet dédié à notre petit Gaulois national, Astérix.
Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nouvelle chronique sur le thème d'Astérix. Oui, oui, vous avez bien entendu. Nous allons bel et bien parler d'un petit guerrier blond à la moustache développée, et non d'un petit symbole qui, je vous le rappelle, se nomme Astérisque. C'est parti pour une première partie sur l'histoire d'Astérix. Et quand je dis histoire, je dis toutes sortes d'histoires. L'histoire dans laquelle évoluent les personnages d'Astérix et qui a un fond de vérité, et l'histoire de la création de la BD. Astérix, le personnage. Astérix, c'est le nom de ce Gaulois connu dans le monde entier, mais aussi de la bande dessinée dans laquelle il est le héros. Comme vous le savez, il est toujours accompagné dans ses aventures par son meilleur ami Obélix. De tout point de vue, Obélix est opposé à Astérix. Obélix est grand, gros, légèrement enrobé. On ne sait jamais, peut-être qu'il traîne dans le coin. Un peu idiot, avec un esprit d'éternel adolescent. N'oublions pas que le fait que c'est un glouton, et que petit, il est tombé dans une marmite de potions magiques, ce qui l'a doté à vie d'une force surnaturelle. Dans leurs nombreuses aventures, les Gaulois du village d'Astérix, plus couramment appelés irréductibles, rencontrent des patrouilles romaines et leur mettent une bonne raclée. En même temps, leur druide Panoramix leur fournit une potion magique qui leur donne une force renversante à tous les sens du terme. Bref, comme selon moi vous connaissez tous Astérix, je ne vais pas me perdre dans les détails de cette histoire, mais il faut que vous sachiez qu'elle se déroule en Gaule, à la période de l'Antiquité, en -50 avant Jésus-Christ. Pour ceux qui ont séché les cours d'histoire, l'Antiquité c'est avec César, Cléopâtre, tout ça tout ça. L'évolution. Les personnages ont beaucoup évolué de par leur façon d'être dessinés et leur rôle. Idéfix est l'exemple parfait de cette évolution. Il passe d'un figurant à un personnage avec un caractère et un rôle important. Il sauve même Astérix, Panoramix et Obélix dans Astérix et Cléopâtre. Le style de la BD. On peut dire qu'Astérix est une BD humoristique, mais aussi historique. Certaines BD de la série ont une double lecture avec pas mal d'allusions au monde d'aujourd'hui et ses événements, notamment le dernier numéro qui regorge de ces allusions. On peut aussi noter qu'il y a un comique de répétition dans les BD, car à chaque fois, les pirates coulent leur bateau, on les prend toujours en pitié. Astérix, la BD. Astérix a été créé par le scénariste français René Goscinny et le dessinateur français Albert Uderzo le 29 octobre 1959 dans le journal Pilote. René Goscinny est mort en 1977 et son acolyte poursuit la série de BD seul. En 2013, il confie les aventures d'Astérix à Jean-Yves Ferry et Didier Conrad. Qui dit histoire dit date. De 1959 à 1973, la série est publiée dans le journal Pilote. Elle est aussi éditée en album cartonné aux éditions Drago pour les 24 premiers tomes, puis aux éditions Hachette et enfin aux éditions Albert René. Le succès de la BD. Pour le coup, on peut dire que cette BD est un véritable succès, que ce soit en France ou dans d'autres pays. En effet, la BD a été traduite en 111 langues, et le total des ventes d'albums avoisine les 380 millions. Astérix est la BD européenne qui a été la plus vendue dans le monde. Astérix est devenu une référence, et à chacun de ses nouveaux numéros, les lecteurs sont au rendez-vous. Une quantité impressionnante de produits dérivés a également vu le jour. Astérix est aussi un parc d'attractions, et on peut dire qu'il marche bien. En 2019, 3 millions de visiteurs sont passés par ce parc. Mon avis personnel, j'adore cette BD et ne manque aucun de ses épisodes. Il y en a 38. Et je trouve que chacun d'entre eux offre une histoire divertissante, toujours différente de la précédente. En plus, je trouve que cette BD ne déçoit jamais. Il y a comme un label Astérix. Bon voilà, cette chronique est terminée. Salut, à la prochaine!
C'est Alexis, je vais vous parler de la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale a débuté le 1er septembre 1939 et s'est terminée le 8 mai 1945. Elle a commencé avec l'invasion de la Pologne par les Allemands. La Pologne était alliée avec la France et la Grande-Bretagne. Les ambassadeurs de ces deux pays ont alors déclaré la guerre à l'Allemagne le 3 septembre 1939. Plusieurs pays ont participé à cette guerre. D'un côté, il y a les alliés avec les États-Unis, l'Union soviétique et le Royaume-Uni. Et de l'autre, les pays de l'Axe avec l'Allemagne, l'Italie et le Japon. De nombreuses raisons ont lancé la guerre, dont la Première Guerre mondiale. Le traité de Versailles a imposé des mesures sévères aux Allemands, qui voient les mesures de ce traité comme une humiliation. La crise économique de 1929 ruine l'économie de l'Allemagne. Tout ceci entraînait la montée du nazisme en Allemagne, qui va déclencher la guerre. L'Allemagne nazie d'Adolf Hitler pensait que l'humanité était constituée de plusieurs races, qui n'étaient pas égales entre elles. Les Juifs étaient la plus basse des races, alors que les Aryens, dont font partie les Allemands, formaient la plus puissante, celle qui devait gouverner le reste du monde. Hitler pensait que son pays devait conquérir un espace vital. En juin 1940, la France est vaincue par l'armée allemande. L'armée allemande signe un accord qui prévoit qu'elle occupe la moitié du territoire français au nord. Le Sud reste libre et dirigé par le maréchal Pétain qui s'installe à Vichy et instaure un régime autoritaire. La Seconde Guerre mondiale prend fin en Europe le 8 mai 1945 par la capitulation du Troisième Reich. Puis elle se termina définitivement dans le Pacifique après la capitulation de l'Empire du Japon le 2 septembre 1945. L'Allemagne est alors divisée en quatre zones administrées chacune par un membre des forces alliées. Cette guerre a marqué le XXe siècle en devenant le conflit le plus meurtrier de l'histoire, notamment avec les camps d'extermination et de la Shoah qui étaient les génocides des Juifs.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Maloman. Aujourd'hui je vais vous parler d'aviation. Tout d'abord, connaissez-vous la différence entre un aviateur et un pilote? En fait, les deux mots sont synonymes, simplement aviateur vient du mot aviation. Ce sont les mêmes métiers. Un peu d'histoire. C'est Léonard de Vinci qui fut le premier à faire des plans d'un avion. Ensuite, le premier vol fut réalisé par le français Clément Ader sur l'Éole en 1890. Les avions ressemblaient à des planeurs qui ont été équipés de moteurs avec des ailes supérieures et inférieures. C'était des biplans. Ces avions ont été utilisés pendant la Première Guerre mondiale. Il existe plusieurs types d'aéronefs. Je précise, un aéronef est un appareil qui est capable de se déplacer dans les airs. Il y a deux types d'aéronefs, les hélicoptères et les avions. On peut trouver des hydravions comme le Canadair pour combattre les feux de forêt. Les avions de chasse comme le Rafale ou le Mirage 2000 sont des avions supersoniques, c'est-à-dire qu'ils vont à la vitesse du son. Le Transall ou les A400M sont des avions de transport de l'armée de l'air. Ils transportent des parachutes et des véhicules. Ensuite, les Airbus, les Boeing et les bombardiers sont des avions de ligne qui transportent des touristes ou des hommes d'affaires à travers le monde.
Merci beaucoup Malo pour cette chronique. Toute l'équipe est ravie d'avoir pu partager ce moment d'antenne avec vous. Mais cette émission n'aurait pas été possible sans notre super technicien Angelino qui doit jongler avec les micros et la musique. Merci aux élèves de Politzer de répondre présents pour la troisième année consécutive.
On remercie également notre super présentatrice, Léna, qui nous accompagne maintenant depuis plus de 3 ans. Merci Léna.
On vous dit à bientôt en direct du collège Politzer cette fois.